Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Pascal Sawa, le maire de Wailou, élu CFL-NKS de la province Nord et du Congrès. Pascal Sawa, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs.
Merci d'accepter notre invitation pour évoquer l'actualité politique dense de la Nouvelle-Calédonie et de la province Nord. Tout de suite, un petit retour en arrière. Votre liste du CFL-NKS est arrivée en tête dans la province Nord le 28 juin, avec 10 sièges contre 9 à la liste unie de Paul Néoutine et 3 à la liste Agissons Ensemble pour le Nord de Vanessa Wakapo. Mais c'est Paul Néoutine qui a été reconduit à la présidence. Alors, presque 2 mois après, comment est-ce que vous voyez les choses? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous êtes déçu, amer, fataliste, ou est-ce que vous dites que bon, ce n'est que partie remise?
Non, on n'est pas déçu, hein. On a fait un super bon résultat, on a dépassé la barre des 10 000. Hein. C'est la première fois qu'une liste en province Nord dépasse 10 000 voix, avec un taux d'abstention qui était quand même fort. Hein. Donc concernant les résultats, on est plutôt satisfait. Ensuite, concernant l'élection à la présidence, hein, oui, c'est un coup manqué, on va dire ça comme ça. Hein. Il y a une nouvelle majorité qui s'est mise en place à Koné. Donc on prend acte et on sera dans une opposition constructive et dynamique.
Quelle est l'ambiance justement aujourd'hui à l'Assemblée de la province Nord? Vous êtes entendu ou vous êtes complètement dans l'opposition et ce que vous dites ne sert à rien?
L'ambiance elle est particulière. Hein. On a eu une assemblée la semaine dernière, on a fait une proposition d'amendement. Donc l'amendement a été repositionné en commission. Donc c'était un peu tendu, ça c'est le premier point. Ensuite on s'était quand même vu avant la désignation des présidents de commission. Donc il y a eu un partage entre l'Union calédonienne et les loyalistes pour la présidence des commissions. Donc on a récupéré ce qu'on peut considérer comme des commissions non prioritaires par rapport à nous, notre programme. Hein. Donc on fait avec et on sera force de proposition durant la mandature. Je préside la commission de la femme, la commission de la jeunesse et la commission de l'insertion.
Alors vous y faisiez allusion, qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière assemblée de province le 14 août? D'après ce qu'on a vu, il y a eu un vrai clash entre Paul Néoutine et vous. C'est assez rare quand même que le ton monte de cette manière dans vos assemblées, non?
Oui, c'est assez rare, c'est la vie démocratique. Hein. On a proposé un amendement concernant le rapport de la CTC sur Nord Avenir. Un amendement qui dénaturait pas hein, la délibération. L'idée, c'était de proposer un plan d'action avec de la visibilité sur l'échéance et des indicateurs. Finalement, il y a eu un débat assez vif et il y a eu un vote pour retravailler l'amendement en commission. Donc, on se revoit vendredi prochain en commission pour continuer le travail.
Et vous allez continuer à défendre votre amendement? Vous pensez qu'il a des chances d'être adopté?
Ben je l'espère, hein, parce que c'est un amendement qui donne quand même de la visibilité aux élus et aux administrés de la province Nord. L'idée, c'est que la CTC a fait des préconisations et des rappels au droit. Maintenant, nous, en tant qu'élus et la population, a le droit de savoir quand est-ce que la province hein, va mettre en œuvre ses préconisations et ses rappels au droit.
Parce que c'est un rapport qui est quand même assez sévère sur notre avenir, hein. La Chambre territoriale des comptes parle d'un modèle économique non évalué qui présente des risques de non-conformité à la réglementation. Est-ce que la situation vous inquiète sur le fond, puisque quand même Nord Avenir, c'est la société qui porte les projets de développement économique de la province?
Oui, la situation nous inquiète. Hein. C'était aussi un des axes programmatiques qu'on a porté en juin 2026. Hein. Donc la société, la situation... Elle nous inquiète, aussi bien pour Nord Avenir que pour la province Nord, hein, parce que c'est la province Nord, au final, qui est responsable de tout ça. Donc oui, on est quand même assez inquiets. Il y a des préconisations, il y a des rappels au droit, comme je l'ai indiqué précédemment, et on espère hein, que tout ça sera mis en œuvre rapidement.
Quelle forme de développement économique vous voyez pour la province aujourd'hui? On sait que toutes ces dernières années, dans les mandatures précédentes, tout était basé sur KNS, sur le développement du nickel et de toutes ses conséquences et tous les emplois induits. Maintenant que l'usine est arrêtée, comment est-ce que vous voyez les choses?
Donc nous, notre axe de développement hein, concernant la province Nord, c'était d'abord hein, un axe de rééquilibrage économique interprovince. Donc on avait porté cap à l'est par rapport aux objectifs de développement sur la côte est. Ensuite, on était parti hein, sur un programme quand même assez réaliste. par rapport à la situation de la Nouvelle-Calédonie et de la province Nord. Donc, repartir sur des politiques de développement rural, agricole consolidées, parce que ça crée de l'emploi, on a quand même des dotations naturelles, foncières, de l'eau, qui puissent permettre un développement de l'agriculture. De base, c'est ça. Ensuite, en parallèle, hein, on a des besoins quand même assez criants en termes de production agricole par rapport à notre autonomie alimentaire. Hein. Ça aussi, ce n'est pas un scoop, mais en tous les cas, il y a des débouchés pour les produits. Après, maintenant, le rôle de la province, pas spécifiquement de la province, et des acteurs en particulier, hein, c'est d'organiser tout ça pour qu'on soit plus autonome.
Et le nickel, comment est-ce que vous voyez les choses? Vous espérez qu'il y aura des repreneurs pour KNS? Est-ce que vous êtes informé de l'état d'avancement du dossier?
En tant qu'élu de la province Nord, non, hein, on n'est pas spécifiquement informé de ce qui se passe à Bobuto. Donc on a bon espoir que le processus de reprise soit en phase, hein, avec l'actualité. On n'a pas beaucoup d'informations, donc on attend toujours ce qui va se passer et on espère que ça va réouvrir, hein, parce que c'est quand même un producteur d'emplois qui est non négligeable en province Nord et pour la Nouvelle-Calédonie en général.
Est-ce que c'est pour vous l'un des gros échecs de la mandature précédente parce que tout reposait sur l'usine du Nord en quelque sorte et finalement le projet n'a pas pu aller à son terme, enfin l'usine a dû fermer. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être géré autrement pour permettre une continuité de l'activité?
Oui, je pense que c'est un gros échec, hein, mais il n'y a pas eu que l'usine du Nord. Hein, il y a eu quand même pas mal de projets aussi qui ont périclité, qui ont chuté, soit parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment, soit parce qu'il y avait un déficit de courage. Hein. Donc, après, concernant le process en lui-même, hein, le process technique sur les fours, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas expert.
Ouais.
Dans tous les cas, hein, on a vu que la SLN, malgré la crise, a quand même réussi à passer pour l'usine de Nouméa, hein, l'usine de Doniambo, a réussi à passer la crise. Et que nous, ici, sur Koné, on n'a pas réussi à faire les réformes ou les changements au bon moment pour pouvoir passer au-dessus de la crise, quoi.
Est-ce que la population vous en a parlé pendant votre campagne électorale? Vous êtes allé partout dans la province, évidemment. On a l'impression qu'il y a peu de protestations contre cette situation qui est pourtant assez inquiétante sur un plan économique. Pourquoi la population du Nord ne réagit-elle pas davantage?
Ouais, bah la population du Nord, elle est quand même assez résiliente, hein, même si c'est un terme un peu à la mode ou galvaudé. Hein. On l'a vu pour KNS, on l'a vu pour Poum, hein, où pareil, il y a eu plusieurs centaines d'emplois qui ont fermé comme ça, il n'y a pas eu de grosse mobilisation. On le voit pour la santé, hein, concernant les docteurs. Ensuite, on a rencontré pas mal de gens dans le secteur VKP. Même sur Koumac, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui viennent du nord, qui viennent de la côte est. Donc ils ont toujours dans l'espoir, hein, que ça réouvre. Mais malheureusement, plus le temps y passe, plus ça va être compliqué, parce qu'il va falloir faire de gros travaux, déjà de remise en état sur mine et sur le tapis. Et puis ensuite, il va falloir changer une bonne partie de l'usine, quoi.
Vous parliez de la santé, c'est également l'un des secteurs très préoccupants dans la province Nord. Là, est-ce que vous êtes informé de ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a espoir de retrouver des médecins et de pouvoir remettre en service de manière un peu pérenne les centres médico-sociaux?
Oui, il y a espoir, hein. Il y a quand même une petite reprise avec les docteurs étrangers, donc on ne s'en plaint pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est continuer le recrutement extérieur. Hein. Si le vivier calédonien et le vivier métropolitain sont un peu épuisés, on va dire ça comme ça, il faut continuer à chercher à l'extérieur. Il faut que les candidats docteurs étrangers passent les différentes étapes du processus de recrutement. Et puis ensuite, il faut que nous, on crée les conditions ici pour qu'ils puissent œuvrer dans de bonnes conditions. Mais oui, j'espère que ça reprenne.
Alors Pascal Savoie, vous êtes aussi maire de Wailou. Vous parliez tout à l'heure, vous laissiez entendre une paupérisation pratiquement de la côte Est. Vous-même, comment se passent les choses dans votre commune, quels sont les principaux chantiers qui vous occupent, et est-ce que vous pouvez en faire une espèce de laboratoire de ce que vous voudriez faire dans la province?
Oui, on a posé les choses depuis un moment, hein, depuis la deuxième mandature. Donc c'est la troisième mandature qu'on a entamée en mars. On a été bien élus, hein, à la mairie de Wailou, donc ça nous a renforcés dans ma vision, dans notre processus de travail. On a mis en place un projet de territoire, un plan de développement pour la commune. Donc on le développe au fur et à mesure avec les partenaires parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, au niveau de la mairie. C'est la Nouvelle-Calédonie avec des compétences partagées et ça prend plutôt bien, hein. Il y a plusieurs axes de développement, que ce soit du développement économique, du développement humain ou de la protection de l'environnement, l'école. Il y a tout ça qui est compacté, donc ça marche plutôt bien. Ensuite, Wailou, comme les autres communes, hein, souffre de la crise qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, mais on continue à faire le travail au quotidien.
Alors, il y a des opérations, enfin une opération en tout cas est prévue dans la vague 2 du plan de relance, hein, des travaux sur la route communale et le pont de Godu. C'est vous qui avez sélectionné ce projet et pourquoi, quel est l'intérêt de choisir cette opération-là?
Oui, c'est nous qui avons sélectionné le projet avec l'équipe de la mission interministérielle et le CDR Nord. Donc, on était aussi bénéficiaire, hein, d'un projet dans la vague 1 pour le renforcement de l'AEP. L'idée pour nous, hein, et l'objectif, c'est bien évidemment de faire participer les entreprises calédoniennes à la reprise. Donc, on mobilise les moyens pour qu'ils puissent avoir du boulot. Ensuite, l'autre objectif, c'est le désenclavement. Donc, vraiment des administrés de la commune de Wailou.
Et dans la province nord, plus globalement, qu'est-ce que vous pensez des opérations qui ont été retenues? Elles sont à la hauteur des besoins?
Les opérations, oui, il y a quand même eu pas mal d'opérations qui ont été retenues. J'ai en tête la route Gomène-Yengen et le barrage de Pointe-Boute, je crois.
Oui.
Des gros dossiers qui sont en souffrance, hein, depuis. De nombreuses années, on avait refait le point avec les agriculteurs de Pointe-Boute durant la campagne, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, notamment, qui ont un peu décroché, hein, au vu des délais. Donc, ils ne savent plus trop si le projet va se faire ou pas. Ils voient qu'il y a beaucoup d'argent qui passe en études et malheureusement pas beaucoup d'argent qui passe en réalisation concrète, quoi. Donc, ça prend du temps. Mais on a bon espoir, hein, que ça puisse bénéficier aux administrés, aux agriculteurs.
Vous-même, comment est-ce que vous voyez la situation économique et financière de la Nouvelle-Calédonie? On sait que le gouvernement a fait un point précis devant les élus du Congrès en commission plénière. On sait que l'État est venu à la rescousse, mais que ça suffira pas, qu'il faut encore une aide pour finir l'année et pour préparer le budget 2027. Quel regard vous portez sur cette situation de la Nouvelle-Calédonie?
Moi, je porte un regard plutôt inquiet, hein, parce qu'en plus d'être élu dans l'opposition à la province, je suis aussi maire de la commune, hein, donc on est directement impacté par la diminution des dotations, les recettes de la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, on était en commission plénière avec le président du gouvernement qui nous a présenté la situation, hein. Donc ça faisait aussi du bien d'avoir la transparence de la part du gouvernement. Avec bon, les préconisations, hein. Ils partent en France pour aller négocier avec l'État. Ensuite, il va falloir qu'on fasse ces fameuses réformes. Mais j'ai entendu aussi dans le débat de la part de certains élus loyalistes qu'ils étaient prêts à faire les fameuses réformes. Donc, ce n'est pas des réformes qui sortent de nulle part. C'est des réformes qu'on avait travaillées depuis un moment, mais il y avait un blocage institutionnel. Donc, le fait qu'ils annoncent qu'ils étaient prêts à travailler, à aboutir sur les réformes, c'est plutôt positif, quoi.
Mais est-ce qu'il y aura un accord sur les réformes à faire? Parce que il y a une majorité aujourd'hui qui a été constituée avec le pacte de gouvernance qui a été conclu entre les loyalistes, le Rassemblement et l'Éveil océanien. Les partis indépendantistes n'y sont pas associés. Vous arriverez à trouver un accord et à travailler avec eux?
Oui, j'espère. Hein. On verra ça au niveau du groupe au Congrès. C'est Pierre Chanel-Tuguro, notre chef de groupe, qui s'occupe des discussions, des négociations et des accords. Donc, en tous les cas, si la majorité a déjà un projet d'accord sur les réformes prioritaires, ensuite, ben, il faut qu'ils nous les présentent et puis nous, on dira ce qu'on a à dire. On fera les ajustements parce qu'il va sûrement y avoir des ajustements. Et puis ensuite, on portera tout ça ensemble pour le bien des Calédoniens.
Ah, si on parle un peu politique, Pascal Savoie, comment se porte l'UCF-LNKS aujourd'hui à l'issue des provinciales et de l'installation des institutions? Elle conserve la province des îles, elle dispose d'un groupe de 19 élus au Congrès avec dynamique autochtone et de 4 membres au gouvernement. C'est ce que vous attendiez? L'UCF-LNKS pèse encore suffisamment dans les institutions, selon vous?
Oui, on pèse dans les institutions, hein. On est le seul groupe au Congrès à avoir des élus des trois provinces, si je ne me trompe pas. On a une province sur trois. On aurait pu avoir deux provinces si il n'y avait pas eu le pacte de majorité en province nord. Donc on s'en sort plutôt bien, hein. On s'en sort plutôt bien. On a eu des bons résultats. On aurait pu avoir des résultats meilleurs, hein. Et ensuite, c'est le jeu des élections. Et puis on voit aussi qu'il y a un petit essoufflement là, par rapport à toute la séquence électorale. Donc le taux de participation, il était quand même moyen par rapport aux élections précédentes.
Quelle est l'influence selon vous que garde la CCAT aujourd'hui au sein de l'UC? Et vous-même, quelles sont vos relations avec elle? Parce qu'on a l'impression que vous en portez un peu le poids. Dans le Nord notamment, les élus d'Agissons Ensemble pour le Nord ont dit qu'ils ne voulaient pas voter pour quelqu'un qui soit proche de l'UCF-LNKS-CCAT.
Oui, les élus de Agissons Ensemble pour le Nord disent beaucoup de choses. Ils avaient dit d'abord qu'ils faisaient la campagne sur le changement, le renouvellement, et puis finalement ils ont voté pour la continuité. Ce qu'ils disent, ça leur appartient. Ensuite, nous, on reste bien évidemment, hein, des militants de l'Union calédonienne. On a une trajectoire concernant l'avenir institutionnel et notre souhait, hein, c'est qu'on soit entendu et que le débat soit équilibré. Donc on l'a vu durant les différentes séquences, qu'il y avait quand même un déséquilibre et on espère que si les discussions sur l'avenir institutionnel elles reprennent, ben le Premier ministre saura faire des bougies nécessaires pour qu'on puisse trouver une solution.
Mais je vous disais, cette présence de la CCAT, cette influence qu'elle est supposée avoir aujourd'hui encore, ça vous pénalise pas vous-même? Quels sont vos rapports avec les représentants de ce mouvement?
Oh non, ça ne nous pénalise pas particulièrement, hein. Le président du FLNKS, il est toujours membre du bureau de l'Union calédonienne, donc on travaille ensemble sur les questions qui concernent le mouvement, la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, le résultat des urnes, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est le résultat des urnes. Ensuite, les alliances qu'ont fait les loyalistes avec l'UNI, les gens, ils ont quand même voté pour nous. Donc, je n'ai pas senti qu'il y avait un rejet de ma personne ou de l'Union calédonienne par rapport aux administrés. Ensuite, les alliances politiques, c'est autre chose, quoi.
Alors, on sait que la division reste forte entre l'UC et l'UNI, ben on le voit d'ailleurs dans le Nord, hein, vous en êtes une illustration. Mais vos deux groupes réunissent 26 élus au total au Congrès. Est-ce qu'une réconciliation, ou en tout cas, est-ce qu'un rapprochement est possible et envisageable?
Oh oui, sur ça, il n'y a pas de. Il y a pas de... Bon, il y a eu des divergences pour Bougival, il y a eu des divergences pour le Pacte Nickel, il y a eu des divergences sur la province nord, mais l'objectif, hein, à mon avis, il reste le même, hein. Nous, par exemple, sur la commune de Wailou, hein, on a une liste FLNKS avec l'UPM et avec le Parti travailliste. L'UPM fait partie de l'UNI, donc on sait quand même faire la part des choses pour avancer ensemble.
Mais paradoxalement, Paul Néoutine était opposé à l'accord de Bougival comme vous l'étiez vous-même. Ça crée pas des liens, ça permet pas de parler le même langage?
Ah ben, il faut croire que non, hein. On a essayé de prendre contact avec lui avant les élections pour la présidence. Finalement, il n'a pas répondu favorablement. Donc, je pensais que ça, on pensait qu'il allait y avoir des convergences. Finalement, non.
La priorité aujourd'hui semble être la relance économique de la Nouvelle-Calédonie, son redressement. L'avenir institutionnel, est-ce qu'il faut recommencer à en parler et quand?
Oui, je pense qu'il faut relancer parce que c'est quand même une des conditions pour que la relance économique puisse se faire dans de bonnes conditions avec des perspectives à long terme, hein. Donc, c'est vrai que la situation en France avec la crise qu'il y a en France, soit bien aussi institutionnelle, économique que environnementale, ça nous met pas peut-être dans les priorités du gouvernement. Néanmoins, si la possibilité de se voir avant les élections présidentielles, hein, ce serait une bonne chose. Ensuite, voilà, les élections présidentielles, elles arrivent rapidement. Il y aura sûrement le renouvellement de l'Assemblée nationale dans la foulée. Ça nous repousse à peut-être un an, quoi, hein. Ça fait quand même assez long, quoi.
Vous-même, Pascal Savoie, vous aimeriez participer à ces discussions sur l'avenir ou c'est pas la mission, la fonction que vous souhaitez avoir?
Au niveau de l'Union calédonienne, il y a un fonctionnement assez particulier, hein. C'est le mouvement qui désigne les représentants. Donc il y a des gens qui veulent y aller et qui finalement n'y vont pas. Et il y a des fois des gens qui ne veulent pas spécifiquement y aller et qui sont rattachés à la mission. Donc ça, c'est le mouvement qui décidera, mais en tous les cas, hein, si on est tous disponibles pour participer à chercher une solution pour notre pays.
Mais vous, justement, dans quel cas vous êtes, vous aimeriez y aller?
J'aimerais, s'il faut y aller, j'y vais, oui. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai porté aussi ça dans la campagne. Parce qu'il faut trouver des points de convergence. Et il faut aussi que les loyalistes, hein, soient dans le même état d'esprit. Donc, au final, si tout le monde fait un petit effort, on va réussir à trouver une solution honorable.
Quand vous parlez d'une solution honorable, on avait eu l'impression, les Calédoniens ont eu l'impression pendant un moment qu'il y avait un accord qui avait été conclu à Bougival. On connaît la suite. L'UCFLNK s'en est retiré, a retiré sa signature. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Est-ce que c'est dans le même état d'esprit, dans le prolongement de ce qui avait été trouvé à Bougival, ou est-ce qu'il faut trouver toute autre chose? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Et dans quel état d'esprit est l'UC?
L'Union calédonienne n'est pas dans l'état d'esprit Bougival, hein. Ça, il faut que ce soit clair, mais bon, je pense que tout le monde l'a compris, hein. On a vu à Deva qu'on était plutôt pour, hein, même si pour nous c'était en deçà de ce qu'on espérait, on a quand même fait des concessions. Donc là, il y avait quand même une opportunité pour avancer. Bougival, c'est bien au-dessous d'Eva, hein, et au-dessous même de l'accord de Nouméa. Donc pour nous, ça ne nous va pas. Il faut reprendre les discussions, à mon avis, hein, à partir de Deva, et puis continuer sereinement sur ça.
Même si les loyalistes et le rassemblement ne voudront pas entendre parler d'indépendance association, et même si les Calédoniens ont dit trois fois non à l'indépendance, vous voulez continuer à discuter sur une solution d'indépendance?
Oui, on veut discuter sur une solution d'indépendance, bien évidemment.
Et
Voilà, pareil, hein, je fais pas de scoop, quoi.
l'indépendantiste que vous êtes considère comment la situation économique actuelle de la Nouvelle-Calédonie qui fait que elle ne s'en sortirait pas sans l'aide de la France?
Ça peut être aussi, hein, un pan du partenariat, hein. On le voit avec les États insulaires du Pacifique qui sont associés à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, hein. Il y a plusieurs axes de partenariat. Il y a des partenariats militaires, il y a des partenariats sur la sécurité, il y a des partenariats financiers. Donc tout ça, le champ des possibles, il reste ouvert. Il reste ouvert, donc on comprend aussi, hein, les intérêts qu'a la France par rapport à la Nouvelle-Calédonie, l'axe Indo-Pacifique et la position géostratégique. Donc on pense, hein, qu'il y a vraiment des perspectives pour retisser les liens entre notre pays et la France.
Et le fait qu'une majorité de Calédoniens ait dit non à l'indépendance, c'est pas un élément que vous voulez prendre en compte, que vous pouvez prendre en compte ou que vous devez prendre en compte?
Je considère, on considère, hein, mais moi aussi, donc que le troisième référendum, ça a été un peu une mascarade, hein, donc il faut pas trop se moquer de nous sur ça. On a vu la trajectoire, hein. Sur le premier, le deuxième, le troisième, s'il avait été réalisé dans de bonnes conditions, il y avait quand même la possibilité qu'on passe la barre des 50. Parce qu'on était sur une trajectoire qui montait, hein. Donc le troisième référendum, pour nous, ce n'est pas une référence. Je sais, hein, que le droit a dit le contraire, mais en tous les cas, nous, on reste sur notre position concernant le troisième référendum, qu'on conteste bien évidemment.
Pascal Savoie, vous êtes, on le disait, maire de Wailou, élu à la province Nord, élu au Congrès. On parle souvent du danger du cumul des mandats. Vous arrivez à tout faire?
Oui, j'arrive à tout faire, hein. C'est une histoire d'organisation d'une part, donc une organisation bien rodée, des équipes solides, hein, à la mairie, au congrès et à la province. Donc tout ça, c'est plutôt fluide. On fait aussi beaucoup de travail, hein, dans le cadre de la visio, la dématérialisation. Donc ça nous permet d'une, pour nous, hein, les élus du Nord et des îles, d'éviter de faire des centaines de kilomètres pour des réunions qui durent une heure ou deux heures à Nouméa. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en considération pour les élus qui sont les plus éloignés de la capitale. Pour ceux de Nouméa, ce n'est pas un sujet. Hein. Pour nous, c'est un vrai sujet. D'une part, par rapport au risque qu'il y a sur la route, et puis d'autre part, hein, par rapport au bilan carbone, tout ça, c'est des considérations que nous, les élus qui vivent loin de Nouméa, on prend vraiment en compte.
Vos priorités maintenant pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est votre commune, c'est la province, c'est la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble?
Les priorités pour la commune de Wailou, c'est bien évidemment, hein, le plan de relance. Il faut qu'on est en train de lancer les actions là, de la vague 1 à la vague 2. Ensuite, pour la province, hein, c'est d'être dans une, comme je l'ai dit précédemment, dans une opposition constructive et dynamique. Donc, on va continuer à porter des amendements, des propositions de délibération, des contre-projets. Et pour le gouvernement, hein, le congrès, pardon, parce que au gouvernement, je suis au congrès, ben, ça va être de finir l'année déjà avec ce fameux compte administratif là qui est dans les tuyaux. On ne sait pas trop où il est rendu, mais en tous les cas, il va arriver un jour ou l'autre. Et puis ensuite, d'attendre le retour de la mission de Paris pour voir comment on finit l'année déjà et puis ensuite comment on prépare le budget de l'exercice à venir.
Pascal Savoie, merci d'avoir accepté votre invitation dans ce magazine Transparence.
Ok, merci à vous.